Place Info.
Comment donc rétablir la confiance à Rouen? Nouvelle manifestation cet après-midi, un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Une nouvelle manifestation est annoncée pour le mois prochain. L'usine qui, elle, espère de son côté redémarrer son activité au plus vite. D'un côté, la colère des habitants, de l'autre, la souffrance des salariés. Faut-il les opposer? Débat dans quelques minutes. Nous reviendrons également sur le cri d'alarme du SAMU social. Situation explosive dans l'hébergement d'urgence, à la veille d'une vague de froid, à la veille de la trêve hivernale également. Et puis, ce mot, Alicem, ni un groupe de mode, ni une star de cinéma, mais on va beaucoup en entendre parler dans les prochains jours. C'est une technologie développée par le ministère de l'Intérieur qui prévoit une généralisation de la reconnaissance faciale. Alors demain, tous fichés, réponse avec nos informés Marie-Catherine Beut, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion, Yasmina Jaffar, fondatrice de la Ruche Média, journaliste et experte en médias et communication, Isabelle Alonso, romancière, chroniqueuse notamment à la télévision, Je t'aime, etc. L'après-midi sur France 2 et également Jean-Michel Ribes, comédien, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Jusqu'ici, tout va bien?
Non, parce que je ne suis plus comédien du tout.
Même si vous allez voir, on a les mauvaises fiches.
J'en ai des restes.
Il n'est plus comédien.
Cessons de l'être. Hein? Cessons d'être comédien.
Mais en revanche, metteur en scène, toujours de la série Palace, qui est au théâtre de Paris.
Oui.
Encore sur scène, encore sur les planches.
Oui.
Et mercredi, un livre, Issu de secours.
Oui.
Aux éditions Actes Sud.
Oui.
Tout va bien, j'ai la majorité. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Plusieurs personnes donc rassemblées cet après-midi devant le palais de justice à Rouen. L'inquiétude toujours un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Parmi les manifestants, cette habitante de Mont-Saint-Aignan, riveraine de l'usine.
Je suis en colère qu'il y ait très peu de choses de faites, qu'on n'ait pas d'informations, qu'il n'y ait pas des choses qui soient mises en place dans une région hautement dangereuse. Qu'il n'y ait pas eu le jeudi de l'incendie les 13 communes touchées où les sirènes n'ont pas sonné, sous prétexte qu'on se serait affolé. Or, on a été hautement intoxiqués, on l'est encore. Hier soir, j'ai reçu des amis, ça puait, et aujourd'hui, ça fait un mois.
Yasmina Jaffar de la Ruche Média, un mois après, on le voit, c'est l'impossible retour de la confiance.
Parce que dès les premiers jours, c'était compliqué d'installer une confiance, dans le sens où il y a eu un petit problème de communication. Envoyer 5 ministres en l'espace de 48 heures, dont deux qui ne se contredisent pas totalement, qui sont Elisabeth Borne et Madame Agnès Buzyn, mais qui quand même n'ont pas eu le même discours, l'une à côté de l'autre.
Transport et santé, notamment.
Exactement.
Écologie et santé.
Donc tout ça fait que la communication a été un peu tardive, un peu cafouilleuse. Et une semaine après seulement, Édouard Philippe a pris la parole à l'Assemblée pour dire « nous ne savons rien ». Et les documents, on a reçu, nous journalistes, des documents absolus qui de toutes les produits toxiques, parce que Monsieur Ruffin a demandé une transparence. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de revenir sur les faits, surtout qu'un mois après, nous ne savons pas pourquoi ça a commencé. Donc c'est d'abord pourquoi ça a commencé, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir taire les angoisses. Si, ne sachant pas ce qui s'est passé, en plus on essaye par des déclarations de calmer les gens, ça n'est pas possible parce que ça ajoute de l'angoisse à l'angoisse. Donc il aurait fallu, dès le début, simplement dire, en effet, nous ne savons pas, et ensuite parler des indemnisations, parce que du coup, sur tous les fronts, tout se mélange aujourd'hui.
Jean-Michel Ribes, il y a une erreur dès le départ, tout se mélange, on en a trop fait, pas assez, pas au bon moment.
Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est par-delà, évidemment, la juste réclamation de transparence, etc. Ce qui me frappe, c'est cette espèce de sentiment aujourd'hui qui n'avait pas tout à fait, il y a quelques années, d'immédiatement solidarité de manifestation qui arrive. C'est-à-dire que le malaise qui nous occupe depuis un certain temps fait que les gens, pour plus de raisons que d'habitude, sortent dans la rue et manifestent. C'est-à-dire que tous les gens sortent, tous les gens manifestent, tous les gens sont là. Je crois qu'il y a quelque chose là qui fait que le citoyen a appris aujourd'hui que pour se faire entendre sur n'importe quel problème, aller dans la rue et le dire est un moyen essentiel.
C'est une façon de mettre la pression, en quelque sorte, sur les autorités.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus, on pourrait dire, il y a quelques personnes un peu intoxiquées qui ont fait porter plainte, etc. Non, là, une solidarité générale. Et ça me semble non seulement sain, mais un symptôme de résistance à toutes les... je veux dire, toutes les choses pas toujours très claires qui nous gouvernent.
Sans résistance, Isabelle Alonso, ils doivent continuer à manifester, les habitants, les riverains, pour obtenir. Parce que le gouvernement communique, en l'occurrence.
Déjà, truc arrive, cet incendie, et avec des images tellement impressionnantes. Et encore, nous, on a vu que les images, on n'était pas sur place. C'est un événement énorme. C'est extrêmement angoissant, c'est extrêmement anxiogène. Et là, le gouvernement, c'est son job de rassurer les gens. C'est son job de dire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut pas faire, je sais pas, enfermez-vous chez vous, au contraire ouvrez, j'en sais rien. Déjà, première chose, des détails pratiques, un message, quelque chose, autre chose qu'un pseudo discours rassurant. On a tellement ri pendant des années de ce nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière française, et on a l'impression que les pouvoirs publics, gauche ou droite, hein, c'est même pas la question, n'arrivent pas à réagir pour avoir juste une parole de rassurer les gens, leur dire on s'en occupe, on s'occupe de tout, ça va aller. Personne ne s'attend à ce qu'une enquête dure trois minutes et soit terminée. Non, les enquêtes vont être faites, on va calculer les indemnités, etc. Mais simplement être là, se déplacer pour avoir un autre discours que dire non, finalement, ça va aller.
Oui, mais c'est à Tchernobyl, au moment de Tchernobyl, personne n'avait fait une manifestation en disant on va être empoisonné par, etc. Là, ce que je trouve incroyable,
c'était différent, mais là, par exemple,
c'était quand même
évident. Bah oui. C'était quand même évident qu'il y avait autre chose à faire, de rassurer les gens,
oui,
d'avoir au moins
une parole,
une
présence. Oui, c'est bien, mais la réaction populaire est absolument magnifiquement décuplée et ne l'a pas été au moment où le nuage s'est arrêté à la frontière alsacienne.
Marie-Catherine Bott, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion. Est-ce que c'est un problème de communication au niveau du gouvernement ou au niveau de l'entreprise elle-même, Lubrizol ?
Les deux,
ou ni l'un ni l'autre. Pour moi, ni l'un ni l'autre. Pour moi, il y a une espèce de péché originel à Lubrizol qui est que au moment, le matin où se produit cet événement, le 26 septembre, c'est partout sur tous les écrans, tous les médias, on commence à pressentir que c'est un événement hyper important, majeur, un incident très très grave. Les habitants le savent parce qu'ils savent que c'est une usine Seveso. Et puis quelques heures plus tard, Jacques Chirac décède et là, la couverture médiatique bascule hors les chaînes d'info continues, les réseaux sociaux nous habituent à avoir un miroir permanent, un accès immédiat, rapide, continu à de l'information. Et donc là, ce premier blackout sème le soupçon, sème le doute. Et à partir du moment où il y a une parenthèse de temps où on n'avait plus d'informations, tout est possible, le doute est permis sur tout. Après vient voilà la mauvaise communication du gouvernement, c'est pas une bonne chose. Après vient la communication de l'entreprise qui essaye un peu de se dédouaner ou de remettre la faute sur son voisin. Non, le feu n'est pas parti de l'intérieur, mais de l'extérieur du site, etc. Et tout ça contribue à ne pas rassurer les gens, à entretenir leur défiance. Je pense que beaucoup de choses à partir de là ne sont plus audibles.
Et le débat se poursuit dans les informés, 20h10. Maureen Suinard nous a rejoint, le rappel de l'info.
Le corps retrouvé dans une forêt en Alsace est bien celui de Sophie Le Tan. Cette étudiante portée disparue depuis plusieurs mois, c'est l'annonce du procureur ce soir. Après la découverte mercredi de 39 corps dans un camion près de Londres, le chauffeur est inculpé pour homicides involontaires et trafic d'êtres humains. L'homme de 25 ans est originaire d'Irlande du Nord. Trois autres personnes sont encore en garde à vue dans cette affaire. Du monde de nouveau dans les rues de Barcelone, au moins 350 000 indépendants qui défilent selon la police locale après la condamnation de 9 de leurs leaders à de la prison ferme. Des manifestations qui ont dégénéré la semaine dernière et fait plus de 600 blessés. Plus de 50 000 personnes ont dû évacuer leur maison en Californie. De violents incendies en cours dans cet état de l'Ouest américain. Deux foyers actifs au nord de San Francisco et aussi près de Los Angeles. San Francisco est déjà plus de 10 000 hectares ravagés alors que l'on prévoit des vents de pluie de 130 km par heure dans les prochains jours. Édouard Philippe est arrivé en Guadeloupe, déplacement du Premier ministre sur le thème de la lutte contre les sargasses, les émanations de ces algues brunes qui provoquent qui sont toxiques. Le sujet est pris à bras le corps par le gouvernement, il promet un accompagnement de l'État dans la durée. Et puis 5 matchs de la 11e journée de Ligue 1 de football en cours, notamment Montpellier, Angers, Lyon, Metz ou encore Strasbourg. Bournis, Lille a battu 3-0 sur sa pelouse par Bordeaux.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neïla Latrousse.
La colère donc toujours à Rouen, un mois après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol. Et des manifestants cet après-midi avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Notre avenir sans le cancer » par exemple, ou évoquer des crimes industriels. Les syndicats se plaignent de beaucoup d'informations et de peu de transparence. Yasmina Jaffar, vous qui êtes experte en communication, beaucoup d'informations, peu de transparence, qu'est-ce que cela veut dire ?
Ben, ça crée justement de la confusion. Donc il faut au-delà de la transparence être sur le pont en effet et pouvoir dire les choses quand on les connaît et sortir justement là des effets de communication ou de bataille entre les syndicats et le gouvernement, essayer d'utiliser chaque chose qui se passe pour tirer la couverture à soi. Donc là il y a des personnes qui sont terriblement angoissées et qui ont peur de leur avenir, parce qu'il peut y avoir des effets à court terme, à moyen terme et à long terme, et on va savoir incessamment sous peu quels seront les effets de ces différentes fumées. Et l'essentiel est là aujourd'hui, en fait, traiter l'urgence telle qu'elle se présente aujourd'hui, non pas être justement dans des batailles de communication qui vont encore plus créer la défiance, d'autant que les réseaux sociaux, ça crée aussi une vraie psychose, parce qu'il y a des fake news en permanence. Et aussi, pour revenir sur le patron de l'usine, qui a été beaucoup trop silencieux, beaucoup trop longtemps, il y a eu énormément de facteurs négatifs autour de cette affaire.
Et pour l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, qui était ce matin invitée sur France Info, c'est presque même davantage un problème de politique industrielle qu'environnementale. Écoutez.
Il y a un défaut de l'État qu'on peut souligner, notamment je vous parlais de ces contrôles, et il y a une baisse des moyens accordés aux contrôles aujourd'hui sur l'ensemble des sites Seveso. La France a beaucoup de sites Seveso, même c'est l'un des pays qui en accueille le plus en Europe. Peut-être qu'effectivement on peut se poser la question de est-ce qu'on continue, sachant qu'en plus sur les 1300 sites que nous avons en France, plus de la moitié sont classés seuil haut. Les propositions que nous formulons en tant qu'écologistes, c'est de dire on est dans une civilisation de toute manière des toxiques. Des produits comme ceux qui sont produits par l'usine de Seveso, peut-être qu'on pourrait les remplacer par d'autres produits qui ne seraient pas toxiques.
Isabelle Alonso, c'est aussi un problème de politique industrielle, c'est-à-dire que trop d'usines, trop de dangers, pas assez d'alternatives en France ?
On en revient toujours à ça, c'est une question de philosophie de la production, c'est-à-dire qu'entre le moment où on est capable d'avoir un discours de remise en cause de l'hypertoxicité de tous ces produits, on semble en même temps être tout à fait dans l'incapacité de véritablement non seulement imaginer des solutions, parce que ça je crois que les scientifiques le font très régulièrement, mais d'essayer de mettre en place des politiques qui correspondent à autre chose et qui fassent que les usines Seveso disparaissent petit à petit, parce qu'il y a certainement d'autres manière de procéder, on le sait. Il faut tellement remettre en cause des automatismes de comportement qu'on a l'air de reculer et qu'il ne se passe rien, c'est dommage.
Marie-Catherine Beuth, rédactrice en chef adjointe de l'Opinion. Derrière, effectivement, tout le débat environnemental autour des risques après cet incendie, il y a aussi la question très concrète économique, c'est-à-dire les indemnisations pour les agriculteurs, pour les commerçants, et puis la question des salariés de Lubrizol.
Oui, il y a des conséquences environnementales, sociales, mais économiques qui vont être considérables, notamment pour tous les agriculteurs qui, d'une part, dans les premières heures, n'ont pas été très bien informés sur ce qu'il fallait faire, pas faire, ce qu'ils pouvaient faire, pas faire. À plus ou moins long terme, il y aura probablement énormément d'inquiétudes sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau des sols, au niveau de l'eau, quel impact sur... Et pour eux, c'est leur matière première. Oui, mais pour eux qui vont... c'est leur matière première à partir de laquelle ils travaillent aussi. Donc ça va probablement remettre en cause un certain nombre de choses au niveau des agriculteurs.
Moi, je voyais au Sénat, les sénateurs qui s'inquiétaient pour les salariés, avec un témoignage d'un secrétaire CFTC du Comité social et économique de Lubrizol qui disait les enfants, les salariés se font agresser, se font charrier éventuellement à l'école. Jean-Michel Ribes, est-ce qu'il faut permettre à cette usine de redémarrer au plus vite pour résoudre aussi cette question concrète de familles qui y travaillaient, qui touchaient un salaire, qui faisaient vivre peut-être aussi un écosystème ?
À partir du moment où il y a une sécurisation absolue, une transparence de l'information pour dire que tout va, il faut évidemment que l'usine reprenne au plus vite. La chose que je trouve positive finalement dans ce drame, c'est qu'on va peut-être s'apercevoir que pour les autres usines Seveso, il va falloir faire des efforts de sécurité et ne pas considérer que c'est seulement à Rouen que ça peut arriver. Je veux dire que tout d'un coup, là, il y a une prise de conscience sur la dangerosité de ce type d'industrie.
Il faut s'y intéresser à plus grande échelle, lancer des enquêtes ailleurs.
Oui, mais il faut surtout, je sais plus combien il y avait de milliers d'usines Seveso par rapport à un nombre d'inspecteurs, je crois, qui vont vérifier si tout est bien, qui est minime. Je crois que là, il y a quelque chose à faire pour aller voir comment ça se passe et s'il n'y a pas de risque de détérioration, d'explosion, d'incendie, je ne sais quoi.
Oui, parce que la sécurité, ça coûte cher. Ça coûte cher de prévoir que les cycles de production soient sécurisés le plus possible, qu'effectivement il y ait des inspecteurs qui viennent vérifier que tout va bien. C'est-à-dire qu'on sécurise au maximum, on ne pourra jamais éviter totalement les risques. Mais ce qui est certain, c'est que c'est on soupçonne vite les entreprises de faire des économies sur les budgets de la sécurité et tout, parce qu'on se dit, ça va pas arriver. Enfin, ce genre de raisonnement, c'est, j'imagine que ça arrive.
Il va y avoir une prise de conscience quand même de ça, quoi.
Par exemple, le site avait été inspecté.
Surtout que cette usine, eu quelques alertes et avait été inspectée 2 ans avant.
Bah là, dans ce cas-là, il faut inspecter les inspecteurs.
Voilà, exactement. Il y a une défaillance de toute évidence quelque part, et au niveau aussi de la direction de l'usine, qui s'est tue trop longtemps, et qui savait que ce site était dangereux. Il a été rappelé à l'ordre plusieurs fois ces dernières années, donc c'est juste presque un scandale, en fait, cette attitude, cette façon aujourd'hui de se défausser, de se renvoyer un peu les responsabilités au niveau de la direction de Lubrizol.
C'est une bonne, pour le coup, c'est une bonne mesure, c'est un geste de bonne volonté de la part de l'usine de dire on va indemniser tout le monde, parce que pour le coup, on imagine que c'est un coût aussi pour l'entreprise.
Ils peuvent difficilement faire autrement. En même temps,
ils
sont obligés d'indemniser. Ils ne peuvent pas dire, on va voir, on va faire une enquête. Non, évidemment, il faut indemniser. Oui. Le préjudice est évident, là, ne serait-ce que
Donc
préjudice
visible. Donc ça coûte encore
visible.
Plus cher que la sécurité
qui
n'est pas là.
Oui, évidemment.
Est-ce qu'il faudra en passer aussi par l'indemnisation des particuliers? Parce que c'est tout le débat actuellement. Sont indemnisés les agriculteurs, les commerçants? Les particuliers, il y a aussi un risque sanitaire pour eux.
Bien sûr.
L'entreprise va être obligée d'en passer par là aussi, vous pensez, Yasmina Jaffar?
Mais je pense que ce sera dans les mains de la justice à un moment donné, quand même. Mais oui, je crois qu'il faudra, s'il y a des dommages et des problèmes de santé très importants, ça rappelle le fameux film très connu d'Eric Brockovich, voilà, par exemple, qui est une vraie histoire. Oui, il faut indemniser les gens qui ont été touchés par le problème. Et là, ça va très loin, parce que c'est un nuage de fumée, encore une fois, il ne s'arrête pas aux frontières. Donc ça peut aller très loin.
Et bien, on dirait que les particuliers ne sont pas les mêmes êtres humains que les commerçants, que les agriculteurs. Non, les particuliers, c'est aussi des gens qui sont impactés par ce genre d'empoisonnement.
Et c'est un dossier que nous continuerons à suivre dans les informés, puisqu'on rappelle que les syndicats appellent à des manifestations régulières pour suivre l'intégralité du processus de transparence et de communication de la part autant de l'entreprise que du gouvernement. 20h20 sur France Info, le rappel de l'info, Maureen Suignard.
Le corps de retrouvé démembré en Alsace dans une forêt cette semaine est bien celui de Sophie Le Tan, annonce du procureur ce soir après des analyses ADN. Cette étudiante de 20 ans était portée disparue depuis plus d'un an. Le secteur est connu pour être fréquenté par Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans cette affaire. Un accident de chasse mortel ce matin à Varilhes en Ariège. Un homme de 70 ans participait à une battue quand il a reçu une balle au niveau de la poitrine. La gendarmerie ouvre une enquête pour savoir si l'organisation de l'événement était aux normes. 5 ans après la mort de Rémi Fraisse, 150 personnes réunies à Sivens et Gaillac dans le Tarn. Le militant écologiste victime de l'explosion d'une grenade offensive, c'était pendant une manifestation contre la construction d'un barrage. Les juges d'instruction ont ordonné un non-lieu en faveur du gendarme dans cette affaire. Le président chilien demande à tous ses ministres de démissionner. Vaste remaniement au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation. 1 million de personnes dans les rues pour réclamer plus de justice sociale. Le couvre-feu en vigueur dans la capitale depuis une semaine est aussi levé. Quelle nation face à l'Angleterre pour la finale de la Coupe du Monde de rugby? Réponse après la seconde demi-finale demain matin. Ce sera à partir de 10h entre l'Afrique du Sud et le Pays de Galles. Ce matin, le 15 de la Rose a créé l'exploit en battant les doubles tenants du titre, les All Blacks 19-17. Et puis à vos montres et vos horloges, nous changeons d'heure cette nuit. À 3h du matin, il sera 2h, 1 heure de sommeil en plus donc.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Jean-Michel Golinski nous le confirmera tout à l'heure. C'est la fin de l'été indien. Dès demain, les températures se rafraîchissent et le froid va balayer une bonne partie de la France. La semaine prochaine, le SAMU social tire la sonnette d'alarme sur l'hébergement d'urgence. Le système est au bord de l'implosion. Dominique Versini, cofondatrice du SAMU social, était sur France Inter.
Le 115, c'est le numéro de téléphone gratuit pour appeler lorsqu'on est sans abri ou pour signaler une personne sans abri. En ce moment, il est complètement saturé parce que des gens appellent en nombre très important. Ils appellent plusieurs fois de suite et il ne répond qu'à 10% de ces appels. Et chaque soir, le SAMU social laisse 1500 personnes en ce moment en famille, en situation de rue. Ça veut dire 1500 femmes, familles avec à peu près 700 enfants qui dorment aux urgences des hôpitaux, qui dorment dans différents endroits.
Alors, en préparant l'émission, j'ai retrouvé des articles de 2003 déjà sur la saturation du 115 du numéro d'urgence. Marie-Catherine Beut de l'Opinion, rédactrice en chef adjointe, pourquoi est-ce que c'est si difficile de résoudre cette question du nombre d'appels qui aboutissent? Pourquoi est-ce que le 115 est toujours saturé depuis des années? S'il y a une réponse.
Je pense que si elle était simple, si on avait une réponse, on n'aurait pas ce problème, ce sujet qui revient chaque année ou presque. Il y a deux choses qui se passent. On augmente le nombre de places, mais ça correspond jamais au nombre de demandes. L'État essaye de changer différentes mesures, de racheter des hôtels pour créer des places. Enfin, c'est, je crois que c'est un problème très très complexe et il n'y a pas de réponse simple. On augmente le nombre de places, je crois que ça a triplé, notamment pour les familles, entre 2016 et 2019. C'est pas assez. Il y a l'idée qu'on a toujours un petit train de retard par rapport aux besoins de la population au moment où ils arrivent.
Isabelle Alonso, on a du mal à anticiper, comme le dit Marie-Catherine Beut.
C'est extraordinaire qu'on ait du mal à anticiper quelque chose qui est au bord de l'implosion depuis une vingtaine d'années. On en entend parler tous les automnes à cette époque. On a la même surprise consternée, mon Dieu, mais les services sont saturés. Je me demande où est la véritable volonté politique de véritablement résoudre la question à la base.
C'est un manque de volonté politique pour vous ?
Non, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et qui se donnent beaucoup de mal. Mais c'est peut-être dans la manière d'appréhender la chose, de considérer que c'est un problème d'urgence. Et on est sans arrêt dans l'urgence. Mais peut-être qu'il faudrait essayer de poser la question autrement pour ne pas se retrouver sans arrêt dans cette situation de blocage total, parce que je crois que le 115 est saturé, mais de manière absolument colossal. C'est pas quelques appels de temps en temps qui n'arrivent pas. Non, c'est l'immense majorité des appels n'arrivent pas jusqu'au 115.
Ils estiment à 5% le nombre d'appels qu'ils réussissent à prendre.
C'est extraordinaire. Et donc, tant que c'est un système, une question d'urgence à gérer dans l'urgence, on n'y arrivera pas par définition. C'est comme si on était devant les chutes du Niagara avec un petit seau et une petite pelle en train de se dire « je n'y arrive pas ». Ben non. Et donc il faudrait, je ne sais pas, trouver des solutions pérennes. Il y a forcément quelque chose à faire dans un des pays les plus riches du monde, avec les moyens qu'on a, pour éviter que des enfants dorment dans la rue en plein hiver. En tant que Parisien, on le voit tout le temps. C'est un spectacle insupportable.
Mais pas qu'à Paris, en plus.
Jean-Michel Rive.
Non, moi, je pense que c'est plus grave que ça. Je pense que la loupe sur l'urgence, on n'y arrive pas. Je pense que c'est une démotivation générale. Je pense que, je ne sais plus, j'ai fait un débat l'autre jour très intéressant au musée de l'immigration, et quelqu'un disait, mais ce n'est plus à la mode. Les gens qui dorment dehors, tout ça, avant, il y avait une motivation, il y avait un regard très fort sur l'aide. Il faudrait une espèce d'aide énorme, mais il n'y a pas tellement de mauvaise conscience, c'est comme ça, et puis c'est comme ça.
On a baissé les bras, en quelque sorte.
Oui, il y a quelque chose de... Bon, c'était assez... quand il disait c'est plus à la mode, c'était assez bien, parce qu'aujourd'hui, la bonne conscience, ça va. Aujourd'hui, c'est on sauve la planète, donc déjà, c'est pas mal. Mais sauver les hommes, je suis pas sûr qu'on s'en occupe. Et je trouve, on doit refixer un tout petit peu la lunette sur ce qui se passe, parce que moi, personnellement, je suis horriblement choqué par ça. J'ai fait des débats au Théâtre du Rond-Point avec toutes les associations qui s'occupent de justement des gens qui dorment dans la rue, etc. Il y a des gens admirable, des jeunes gens bénévoles extraordinaires, personne n'en parle, qui passent leur nuit, qui vont chercher les gens. Il y a des choix de Sophie, deux femmes à couche, on n'a qu'un lit, laquelle prendre, etc. C'est extraordinaire ce qui se passe, mais ça ne rentre pas dans les préoccupations à la fois morales et à la fois de bonne ou mauvaise conscience de la population. C'est quelque chose qui a été remplacé par autre chose. Et moi, je pense que par-delà l'histoire de l'urgence, c'est qu'il faut mettre ça en priorité. Oui, c'est-à-dire que c'est en priorité. Tout ça doit passer devant. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on s'effondre parce qu'il y a une race de cervidés qui viennent foutre le camp, qu'on ne reverra plus en fond de l'Amazonie. Mais je veux dire, il y a des gens qui meurent et qui dorment dans la rue. C'est insupportable. Et je pense qu'il faut sauver les hommes et aussi la planète, mais d'abord sauver les hommes.
J'entendais Yasmina Jaffar dire que ce n'est plus une priorité. Oui, 30 secondes,
Yasmina. Ça n'en fait pas une priorité. Là, les chiffres du chômage du Pôle emploi ont été donnés il y a quelques jours. On est à 2 points de moins. Et donc, ça pourrait être parfait pour Emmanuel Macron. Mais en même temps, la pauvreté augmente aussi. Donc, les inégalités sont absolues. Et il y a une urgence totale parce qu'il y a aussi les vagues migratoires. Il y a aussi dans l'Est de Paris des familles entières à la rue. Des familles, donc ça veut dire des enfants, comme le disait très bien le son tout à l'heure, 700 enfants à la rue, c'est absolument choquant et rien n'est fait en termes d'infrastructure pour préparer, et ça n'est que le début parce que ça va continuer.
Il l'appelle des informés, hein. Remettre cette question des humains au cœur des débats dans quelques instants. En priorité absolue. Dans quelques instants, nous évoquerons Alicem, hein, cette technologie développée par le ministère de l'Intérieur qui prévoit une généralisation de la reconnaissance faciale. C'est un tout autre sujet. Demain, tout surveiller. Réponse après la météo et le journal.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 54 ans. Certes, je ne suis pas fortuné, mais cela ne m'empêche pas d'être solidaire. J'ai décidé de faire bénéficier le Secours Populaire de mon assurance vie, car je lui fais entièrement confiance pour aider les personnes les plus démunies près de chez moi.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
Ouvrez les bras, détendez-vous. Dans 6 mois, vous êtes à la retraite. Respirez, sortez votre tablette et faites votre retraite sur mademandederetraiteenligne.fr. Une seule demande pour toutes vos caisses de retraite.
Mais ça simplifie la vie !
Oui, oui. Alors restons zen.
Rendez-vous sur mademandederetraiteenligne.fr. C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure. Pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
France Info, les prévisions avec Jean-Michel Golinski.
Différence sensible de temps et de température demain entre le nord et le sud du pays, avec un lever du jour maussade entre le nord de la Loire et la frontière belge. En journée, un peu de soleil viendra égayer l'ambiance sur les départements situés près de la Manche, tandis que le temps pluvieux va gagner l'après-midi vers le Poitou-Charentes, le centre et la Lorraine. Il est à remarquer que de la Bretagne à la Normandie et du Val-de-Loire au nord de la Seine, le vent va s'orienter au secteur nord, d'où les températures en forte baisse et souvent plus élevées en fin de nuit qu'en cours d'après-midi, avec des maximales plafonnant à une dizaine de degrés entre Rennes, Lille, Rouen, Reims, Tours et Paris. Plus bas, les valeurs vont stationner un peu comme aujourd'hui entre 20 et 25 degrés avec le maintien d'un large ensoleillement au sud d'un axe Arcachon-Moulin-Forbach, sauf dans le golfe du Lion en raison d'imposantes entrées maritimes. Et automne oblige, il y aura souvent des brouillards dans les vallées humides en tout début de journée.
...20h30 sur France Info, toute l'information avec Olivia Chandiou. Bonsoir Olivia.
Bonsoir Neila, bonsoir à tous. Le corps retrouvé dans une forêt du Bas-Rhin est bien celui de Sophie Le Tan, cette étudiante disparue depuis plus d'un an à Schiltigheim près de Strasbourg. Le procureur le confirme ce soir grâce aux analyses ADN. Jean-Marc Reiser, le suspect numéro 1, est en détention provisoire. Il nie toute implication alors que du sang de Sophie Le Tan avait été découvert dans son appartement. Et c'est donc le corps de l'étudiante strasbourgeoise que les enquêteurs ont retrouvé en forêt.
Oui, dans un communiqué de presse ce soir, le procureur de Strasbourg, qui s'est saisi de l'enquête, indique que le profil génétique du corps est identique à celui de Sophie Le Tan. D'autres résultats d'analyse sont attendus. Des prélèvements ont été faits sur le corps très abîmé lors de l'autopsie hier pour poursuivre l'enquête. Le procureur annonce également qu'une conférence de presse aura lieu lundi après-midi. Mercredi, c'est un gendarme qui avait fait la découverte du corps en fin de matinée alors qu'il se promenait en famille sur les hauteurs de Grindelbruch. Une commune de montagne entourée d'une forêt dans une zone escarpée où des recherches avaient déjà eu lieu. Un crâne puis un tronc démembré. Il avait aussitôt prévenu ses collègues et les enquêteurs de la police judiciaire. Dans cette affaire donc un suspect principal, Jean-Marc Reiser. Le lendemain de la disparition de l'étudiante, en septembre 2018, le portable de Jean-Marc Reiser avait borné non loin de l'endroit où ce corps a été découvert mercredi.
Les précisions de Jade Péchira pour France Info. Un homme présenté au parquet de Besançon aujourd'hui, il est soupçonné soupçonné d'avoir roué de coups un agent de la SNCF sur le parvis de la gare et sera jugé après-demain. L'employé a été roué de coups jeudi soir par 4 personnes alors qu'il voulait secourir une jeune femme qui était en train de se faire agresser. Édouard Philippe est arrivé en Guadeloupe, un déplacement sur le thème de la lutte contre les sargasses, ces algues brunes qui provoquent des émanations toxiques dans les Caraïbes. Le Premier ministre va assister à la clôture d'une conférence internationale sur le sujet. L'objectif est de formaliser une alliance avec notamment le Mexique, le Panama ou encore les États-Unis pour empêcher la prolifération des sargasses. L'ONU ouvre un second camp pour les réfugiés kurdes en Irak. Ils sont plus de 11 000 à avoir fui l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Mardi, l'accord entre Ankara et Moscou entrera en vigueur sur le terrain avec des patrouilles russo-turques dans le pays pour assurer une zone de sécurité. Et puis on connaîtra demain le nom de l'adversaire de l'Angleterre pour la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Le pays de Galles affronte l'Afrique du Sud à 10h. Aujourd'hui, le 15 de la Rose a créé l'exploit en battant les All Blacks 19-7.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Avec toujours Marie-Catherine Beut, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion, Yasmina Jaffar, fondatrice de laruchemedia.com, journaliste experte en communication, Isabelle Alonso, romancière, chroniqueuse, Je t'aime, etc., l'après-midi sur France 2, en télévision et en presse écrite, ciné mensuel et ciné madame, et Jean-Michel Rib, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, qui avait une requête à faire sur la parité, hein, c'est ça le...
Non, mais je trouve que, voilà, quand même, là, je suis tellement... En plus, ces femmes sont tellement brillantes et tout ça, un seul homme sur 4 femmes, enfin, je vais essayer de me débrouiller. Je voudrais juste signaler quand même que si j'ai gardé ce chapeau bleu, c'est parce que Yasmina Jaffar me l'a demandé, parce que ça lui rappelle le bleu de Marrakech.
Oui, ouais. Totalement. En voilà. Effet, j'aime beaucoup ce bleu.
Voilà, nos informés qui ont le discuté, je sens avant l'émission, hein. Oui. On va regarder une actualité un peu moins rose, un peu moins bleue, même c'est un chiffre avancé par le Figaro dans son édition du jour. 5 policiers tués en mission depuis janvier et 4886 blessés sur la même période. Jeudi soir, des heurts ont opposé forces de l'ordre et habitants en banlieue parisienne.
3 fonctionnaires de la BAC se déplacent dans le quartier sensible du Val-Fouré pour une voiture incendiée. Ils sont immédiatement pris pour cible par une quarantaine de jeunes qui lancent vers les forces de l'ordre des pierres, des pavés et qui leur tirent dessus avec des projectiles de feux d'artifice. Pour la police, aucun doute possible. L'attaque était planifiée et coordonnée.
Et des attaques analogues ont eu lieu à Trappes, au Mureau, à Champigny-sur-Marne, contre des pompiers notamment. Yasmina Jaffar, est-ce que cela veut dire qu'il y a des zones désormais interdites pour toute personne qui porte l'uniforme de la République ?
En tout cas, il y a une volonté organisée de la part de 100 personnes, en tout cas pour le cas de jeudi soir, d'attendre la police avec des armes quasiment de pointe. Et ça en dit long sur la société, parce que d'habitude, quand il y a ce genre... Alors, je ne sais pas si on a tous les éléments, mais d'habitude, quand il y a ce genre d'action, c'est le jeune Théo. Ça part de quelque chose, ça part de quelque part. Là, c'est... presque gratuit,
spontané
et absolument affligeant sur cette violence. Et on a le sentiment aussi d'une véritable impunité. Il y a une ou deux personnes qui se retrouvent à l'hôpital et qui donc sont un petit peu inquiétées par cette affaire. Mais au-delà de ça, les 100 personnes se sont totalement éparpillées dans la nature. Donc 100 personnes contre 3 personnes, il n'y a pas vraiment d'équité. Et c'est en même temps, on peut assez comprendre que les pouvoirs publics et ces endroits ont été absolument... abandonné et déserté par un tas de politiques urbaines, mais ça n'est pas absolument pas une raison et c'est absolument ignoble ce qui s'est passé jeudi soir. Et ça ne doit pas se répéter.
Isabelle Alonso, est-ce que c'est le signe d'une situation explosive aussi dans les banlieues, hein, des tirs de mortier, ça pose la question de l'armement
C'est clairement un signe de crispation et clairement un signe de décomposition sociale. Il y a quelque chose là qui ne fonctionne plus du tout. Et alors, il y a quelque chose qui me paraît encore plus significatif, c'est qu'encore qu'on s'attaque à la police, il y a une espèce de logique de gendarmes et de voleurs, etc., qui est quelque chose de relativement traditionnel. Mais quand on en vient à agresser des pompiers, ou quand on en vient à agresser des professeurs dans le cadre de l'école, ou tout ce qui porte la marque d'une autorité quelconque, là, on se rend compte que c'est très, très grave. Ça me paraît extraordinairement important que les pouvoirs publics aussi prennent la mesure de la gravité de la situation, parce que si ça ne fonctionne plus, alors à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher, quoi? C'est donc, je ne sais pas si c'est des no-go zones, mais en tout cas le simple fait que ça puisse arriver, c'est extrêmement préoccupant.
Les no-go zones, c'était le terme qui avait été utilisé par Fox News il y a quelques années. Marie-Catherine Beut de l'Opinion, quand Isabelle Alonso parle d'une décomposition d'un lien social, c'est ce que disent ces heures, ou ça dit aussi que il y a des banlieues qui sont aujourd'hui, ou des quartiers qui sont aujourd'hui complètement en marge de la République.
Ça fait longtemps.
Oui, parce que je pense que c'est pas nouveau. Ça fait longtemps. Ça a été pendant un certain temps déclenché par des bavures ou des faits divers. Là, ça arrive aussi au moment où il y a le procès qui s'ouvre des personnes soupçonnées d'avoir mis le feu à une voiture avec quatre policiers à Viry-Châtillon là en 2016. Donc ça, c'est pas nouveau, et donc il y a un petit écho trois ans plus tard assez étrange. Il y a probablement la décomposition sociale d'un côté. Je pense qu'il y a de l'autre côté aussi un certain nombre de personnes qui ont intérêt à ce que ces zones-là deviennent des no-go zones pour la République, pour les gens qui représentent la République.
Des intérêts parce que des
trafics, des choses comme ça. Et que ça devient possible parce qu'il y a à côté de ça une espèce de peut-être rancœur vis-à-vis de l'uniforme. Alors c'est catastrophique que ça arrive vis-à-vis des pompiers, etc. Mais il y a une rancœur certainement compréhensible vis-à-vis de l'uniforme policier, parce que l'expérience que moi je vais avoir des forces de l'ordre n'est pas la même expérience que peut avoir un jeune homme noir.
Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a eu des abus aussi d'un certain côté qui ont...
Ouais, oui. Ça nourrit un ressentiment, je pense, sur lequel peuvent exploiter des gens qui ont intérêt à ce que la République soit de plus en plus mal reçu et éjecté de ces zones.
Vous êtes d'accord, Jean-Michel Rive?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement, il y a quelque chose qui va vers une situation insurrectionnelle où tout d'un coup, les forces s'hystérisent presque, et tout d'un coup, il y a en effet des bavures policières comme on n'en a jamais vu jusqu'ici. Et il y a
aussi de radicalisation de chaque côté.
Pardon?
Une radicalisation
de chaque
côté.
Oui, c'est ça. Et bon, c'est pas drôle d'être policier, c'est pas drôle d'être dans ces combats-là, mais c'est encore moins drôle de perdre un œil, de perdre une main, etc. Donc, il y a quelque chose là qui est totalement mis dans une dramaturgie qui n'a, comme vous le dites très justement, qui a des espèces de démarrages à partir de sensations d'injustice de son clan, d'injustice de son quartier, d'injustice d'amis, etc. Et puis d'autre côté, il y a des forces de l'ordre qui essayent 24 heures sur 24 parfois de représenter une République et qui débordent. Voilà, c'est tout.
Et le sentiment d'injustice vient aussi en effet depuis très longtemps. Il y a eu un plan qui a été demandé d'Emmanuel Macron pour Monsieur Borloo, et je vois bien que la façon dont le plan a été évacué d'une traite par le président de la République prouve que toutes ces politiques d'urbanisation qu'on met en place depuis 40-50 ans n'ont pas fonctionné. On a déversé énormément d'argent dans les banlieues, pas forcément au bon endroit ni de la bonne manière, et aujourd'hui ça crée une frustration totale de quartiers abandonnés par tous, et on leur a en fait proposé de se débrouiller tout seul.
20h40 sur France Info, dans quelques instants la réponse de Jean-Michel Rib. Juste après, le rappel de l'information assez court avec Maureen Suinard, 20h40 sur France Info.
La police a retrouvé 39 corps dans son camion tout près de Londres. C'était mercredi. Le chauffeur est inculpé ce soir pour homicides involontaires et trafic d'êtres humains. Âgé de 25 ans, il est originaire d'Irlande du Nord. Trois autres personnes sont toujours en garde à vue. Après des analyses ADN, le procureur de Strasbourg annonce que le corps retrouvé dans une forêt en Alsace est bien celui de Sophie Le Tan, cette étudiante portée disparue depuis plus d'un an. Un lieu fréquenté par le principal suspect, Jean-Marc Reiser, qui continue, lui, de nier les faits. Notre avenir sans le cancer, c'est ce que disent les quelques 500 habitants de Rouen et ses environs. Un rassemblement devant le palais de justice cet après-midi, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Ils demandent plus de transparence aux autorités. Une enquête de santé sera menée au mois de mars prochain, mais elle se fera sans prélèvement sanguin dans l'immédiat. Déjà plus de 11 000 réfugiés accueillis en Irak. Ce sont les Kurdes de Syrie qui ont fui les combats entre l'armée turque et les milices kurdes. Un premier camp situé dans le Kurdistan irakien est déjà saturé. Le pays ouvre donc un second. 5 matchs de la 11e journée de Ligue 1 en cours. Strasbourg mène 1-0 face à Nice. Lyon 2-0 contre Metz.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neila Latrousse.
L'indignation des policiers après les heurts qui ont opposé jeudi forces de l'ordre et habitants au Val-Fouré en banlieue parisienne. Un guet-apens pour les forces de police. Juste avant le rappel de l'information, Yasmina Jaffar nous disait que ça questionne aussi notre rapport aux banlieues. Jean-Michel Ribes, vous vouliez réagir à son propos.
C'est-à-dire qu'il y a une chose très 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 belle qui se passe en ce moment. C'est un film, et c'est sorti d'une pièce de Kerry James, qui est ce rappeur qu'on connaît, qui avait écrit une pièce qui s'appelait « Avis » entre deux avocats et qui complètement inversé le rapport traditionnel de l'analyste. C'est-à-dire qu'il disait, il y avait un avocat qui disait, mais oui, on comprend, mais l'État vous abandonne et c'est normal que vous fassiez des exactions, que vous vouliez des voitures, que vous fassiez des manifestations. Et lui disait, non, pas du tout. On est responsable. Et nous, on est responsable. Et si on fait ça, c'est parce qu'il y a des motifs. Et ne nous paternalisez pas. Et je trouve ça assez intéressant parce que, en effet, comme vous le disiez, c'est pas uniquement des feux d'artifice ou pour après que ça déblaye et qu'on puisse vendre de la drogue. C'est aussi la traduction d'une espèce d'injustice ressentie qui se manifeste avec violence face, évidemment, comme on disait, aux gendarmes et aux voleurs, aux gendarmes et à la police. Alors, c'est très regrettable pour les pompiers qui sont les héros de notre République, ça on le sait, mais quand même, il faudrait entendre ça. Il faut entendre que tout ça vient de gens qui ne peuvent pas parler autrement, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, que c'est une manifestation de révolte face à quelque chose qui est...
Et cette pièce à vif est devenue banlieusard sur Netflix,
oui, un film. C'est voilà. Un film magnifique.
Et il a mis cinq ans à faire ce film, il n'arrivait pas à trouver le financement. Et ben alors, vraiment bravo. Et justement, c'est un concours d'éloquence assez fabuleux où on doit entendre ce genre de paroles. Évidemment, c'est très important. Et mettre 5 ans pour obtenir des aides du CNC et que finalement tout le monde lui dit non, sauf Netflix, c'est la preuve qu'on n'a pas envie d'écouter ce qui se passe dans ces banlieues, et c'est dit sans aucune forme de victimisation. C'est dit avec la plus grande des transparences et une autocritique totale des gens qui vivent dans les banlieues. C'est un super film, et dommage que ça ait mis 5 ans à exister. Ça prouve encore une fois que même si la fiction s'empare de projets aussi importants, on a du mal à les faire exister.
Ça a été quand même, je vous le signale, un énorme...
Ça existe, mais 5 ans.
Un énorme succès au théâtre, donc c'est encore plus étonnant.
Mm-hmm. Oui,
ce qu'il y avait de magnifique, c'était que, au moins, les gens qui étaient dans la salle, les 800 personnes qui étaient là, il y en avait 90% qui n'avaient jamais été au théâtre.
Oui.
Ça, c'est magnifique ce qu'a fait Kerry James.
Vraiment.
Et banlieusard, c'est un film qu'il faut voir.
Isabelle Alonso.
Il y a une chose qui me paraît importante aussi, c'est qu'il est, facile de parler et de constater la violence explosive, celle qui casse, celle qui explose, celle qui... Et on a beaucoup moins conscience de la violence sociale larvée, systématique, quotidienne, lourde, qui s'exerce sur des pans entiers de la société, dans des quartiers entiers totalement abandonnés, et qui est aussi de la violence et, à mon sens, de la violence infiniment plus insidieuse, parce que elle est moins spectaculaire, elle n'empêche pas moins sur la vie des gens, elle leur ruine la vie.
Mais c'est la Bresse qui amène le feu.
On a l'impression que tout le monde s'en fout.
Mais vous entendez la droite qui dit c'est le retour de l'excuse sociale, etc. aussi, hein, comme argument dans le débat public.
La droite, l'excuse sociale, s'ils ne sont pas capables de voir cette violence-là, il ne faudra pas après s'étonner que les choses ne s'arrangent pas, je ne sais pas moi.
Petite question, Yasmina Jaffa, est-ce que c'est aussi une question de doctrine de sécurité, ce rapport entre la police et un certain nombre de jeunes? On a vu Gérard Collomb, lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur, recréer les quartiers de reconquête républicaine, la police de sécurité du quotidien, pour retisser une forme de lien social.
Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy a eu la très très bonne idée de supprimer la police de proximité quand il est arrivé. Donc, merci.
Il a eu beaucoup de bonnes idées.
Oui, fabuleux, vraiment exceptionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque, on s'en rend compte des effets aujourd'hui. Donc il faut retisser du lien. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image d'un policier qui a fait un match de boxe amical dans une cité, et c'était très, très bien organisé, et c'est une façon de créer du lien. C'est une initiative personnelle du policier. Il aurait pu être sanctionné pour ça et ce n'a pas été le cas. Et ça, c'est une façon de créer du lien entre les forces de l'ordre et les quartiers qui ont l'impression que ce sont d'abord des ennemis. Ils se regardent en chien de faïence les uns et les autres, alors que la police, on a besoin d'eux dans ces quartiers-là encore plus qu'ailleurs.
Marie-Catherine Beuth, rédactrice en chef adjointe de l'Opinion, c'est envisageable, raisonnable, on peut toucher du doigt d'ici la fin du quinquennat un lien social qui réexiste dans ces quartiers. C'est l'ambition en tout cas d'Emmanuel Macron, d'ici la fin du quinquennat, une 60aine de quartiers de reconquête républicaine. Et de réussir à dépasser ce principe de no-go zone, comme l'appelait Fox News.
Je pense que c'est bien de se fixer des objectifs ambitieux.
Cela étant dit, je ne suis pas très optimiste sur cette échéance de la fin du quinquennat. C'est peut-être d'ailleurs le problème de tous ces plans banlieue, c'est qu'on essaye toujours de régler le problème en l'espace d'un mandat et peut-être, et donc de mettre un peu d'argent ici ou de créer ce type d'initiative par là, et qu'il faudrait peut-être qu'on se dise, bon ben, à 20 ans, à 30 ans, comment on règle le truc et quelles sont toutes les étapes qu'on doit franchir pour y parvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle image de la République va transmettre à ses enfants quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans en banlieue, par exemple ?
C'est une question, effectivement, de long terme. On va rester dans le thème de la sécurité et du ministère de l'Intérieur, sortir de ces banlieues pour aller s'intéresser à Alicem. Alors, le nom paraît curieux comme ça. Ce n'est pas un groupe de mode, ce n'est pas un groupe de musique, ce n'est pas une star de cinéma. C'est une technologie développée par la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, qui prévoit une généralisation à terme d'un système de reconnaissance faciale. Alors, comment ça marche ? Explication de notre consoeur Valérie Barbe de France Bleu.
Notre visage va bientôt servir de sésame, ouvre-toi. Pourquoi faire ? Pour l'instant, uniquement pour accéder avec son smartphone au site internet des services publics, comme la CAF ou comme les impôts. Comment ça marche ? Avec un logiciel qui s'appelle Alicem, pour authentification en ligne, certifiée sur mobile. Le logiciel Alicem compare les photos qu'on lui donne avec les photos de notre passeport biométrique. Et après, magie, plus besoin de mots de passe bizarres, ni d'authentifiant avec 42 chiffres.
Marie-Catherine Beuth, c'est une révolution à l'ICEM en France ou on en fait beaucoup ?
C'est une révolution technologique. En termes d'usage, peut-être pas, parce que ça s'inscrit dans ce grand mouvement voulu par l'État pour optimiser les services publics, de toujours plus les numériser. Moi, ça me pose une question importante, c'est est-ce que le citoyen, le contribuable ou juste l'individu a encore le choix ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux choisir d'accéder à un service public sans donner mon visage, mes données biométriques, etc. Donc, sous couvert de vouloir optimiser toujours tout et de sous couvert de l'habiller par un progrès, je pense qu'il y a une petite dérive un peu inquiétante.
Jean-Michel Rib, c'est séduisant pourtant sur le papier, plus de mots de passe, un sésame unique,
oui,
le visage.
Non, mais je pense que le seul problème, ça va donner un grand coup d'arrêt à la chirurgie esthétique. Parce que si tout d'un coup, vous avez une photo sur votre passeport il y a 10 ans et que vous êtes fait refaire complètement, comment on fait ?
Non,
on ne peut plus ouvrir
nulle part. On va pouvoir actualiser les photos, je pense. On doit pouvoir actualiser les photos.
C'est vrai ?
Je pense.
Isabelle Alonso, est-ce que c'est la fin de la vie privée?
Donc, les chirurgiens esthétiques sont sauvés.
Et du coup, les gonesses aussi.
Non, moi, je suis horrifiée par ce genre de truc. Je veux dire, je trouve déjà que dans la vie quotidienne, on a déjà abdiqué d'un certain nombre de choses. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on ne puisse plus prendre un billet de train sans décliner son identité. Mais avant, on prenait un billet de TGV, on allait quand on voulait, c'est quoi ce flicage des gens? On ne peut plus garer sa voiture et payer le parcmètre de manière anonyme en glissant des pièces dans la fente. Non, faut mettre sa plaque d'immatriculation, c'est-à-dire, et tout ce qu'on paye par carte de crédit, et Dieu sait qu'on paye des choses par carte de crédit, reste enregistré, c'est-à-dire que Big Brother est là, on y est, on y va de nous-mêmes avec notre petit smartphone. Je déteste cette vie qu'on nous propose. J'aimerais de temps en temps pouvoir être un électron libre qui prend le train, qui a envie d'aller à Honfleur pour manger des huîtres et de revenir, sans que forcément ça se sache. On peut avoir... Non mais comment on va faire maintenant ? C'est la fin de l'adultère, hein, je vous le dis, moi.
C'est la fin de la liberté. La chirurgie esthétique,
en plus, on est quand même
ça
très mal parti.
Je ne m'attendais pas à ce qu'Alicem soulève autant de questions.
Ah, mais moi, je suis horripilée par tous ces petits détails qui n'ont l'air de rien et qui nous fliquent sans arrêt, en permanence, dans des choses qui n'avaient aucune raison. Avant, on avait son nom sur les billets d'avion, parce qu'en cas de catastrophe aérienne, il fallait bien savoir qui était dans l'avion. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi, quand on fait 150 km dans un TER poussif, il faut donner son identité ? Il n'y a aucune raison.
On va s'interrompre, Jean-Michel Rib, juste quelques instants, mais on poursuit ce débat. Un avenir sous surveillance, je vous le promets, dans quelques instants, le débat se poursuit dans les informés.
Oui,
20h50, Maureen Suinard nous a rejoint pour le rappel de l'info.
À son arrivée en Guadeloupe, Édouard Philippe promet de prendre à bras-le-corps le problème des sargasses. Les émanations de ces algues brunes présentes en masse sur le littoral sont toxiques. Le Premier ministre assure que l'accompagnement de l'État va se poursuivre dans la durée, mais sans préciser le montant du financement. Un chauffeur de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, inculpé ce soir pour homicides involontaires et trafic d'êtres humains. Mercredi, la police a retrouvé 39 corps dans son camion près de Londres. Trois autres personnes sont toujours toujours en garde à vue actuellement. Elle était portée disparue depuis plus d'un an. Le corps de Sophie Le Tan retrouvé, le parquet de Strasbourg annonce que les analyses ADN le confirment. Il a été retrouvé cette semaine dans une forêt de près de Strasbourg. Le principal suspect, Jean-Marc Reiser, dément toute implication. Des centaines de milliers d'indépendantistes catalans manifestent à Barcelone. Nouvelle journée de contestation après la condamnation de 9 leaders du mouvement à de la prison ferme. La semaine dernière, les rassemblements ont dégénéré et fait plus de 600 blessés. C'est la mi-temps sur les pelouses de la Ligue 1, 11e journée. Strasbourg mène 1-0 face à Nice. Lyon a mis 2 buts face à Metz qui n'a pas marqué. Et un peu plus tôt dans la soirée, Lille a écrasé Bordeaux 3-0.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neila Latrousse.
La reconnaissance faciale testée en ce moment par le ministère de l'Intérieur, la technologie s'appelle Alicem et elle devrait nous permettre d'accéder à tout un tas de services publics en utilisant simplement eh bien une reconnaissance des points de nos visages, en utilisant aussi la technologie biométrique prévue dans les passeports. Alors Isabelle Alonso nous disait juste avant la pause que Big Brother, nous y sommes. Jean-Michel Ribes, est-ce que demain nous serons tous surveillés? Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que c'est aussi le sens du progrès?
C'est-à-dire qu'il y a... On se demande si on est tous surveillés. C'est comme si on mettait, vous savez, on disait, il faut un policier par citoyen. Donc, qui nous surveille? Et on veut savoir le visage des gens qui nous surveillent. Ça, ce serait équitable. C'est-à-dire, si on me surveille avec mon visage, je veux avoir le visage du type qui me surveille. Que ce soit égal, au moins, si vous voulez. À ce moment-là, bon, on peut en reparler.
Est-ce que, d'une certaine façon, Yasmina Jaffar nous donnait, qui sont déjà entre les mains d'entreprises privées, est-ce que c'est plus grave qu'elles le soient entre les mains d'un gouvernement qui assure par ailleurs que la CNIL surveillera
Dans un pays démocratique, donc on peut essayer de trouver qu'il y aurait des possibilités de gérer un peu ça, mais la Chine, en tout cas, s'en sert allègrement. Il y a, par exemple, 170 millions de caméras déjà, et d'ici 2020, il y en aura 450 millions de plus. Et il y a aussi un petit carnet que vous avez, qui est un cahier de société, et si vous ne respectez pas. Par exemple, il y a 3 papiers à prendre quand vous allez aux toilettes, pas 2. Si vous en prenez 2, votre visage le voit immédiatement et vous avez des points en moins. Quand vous avez des points en moins en Chine sur ce petit cahier, vous n'avez pas d'aide et vous n'avez pas accès à des appartements, etc. Vous êtes puni. Donc, quand vous trichez au métro aussi, dans le métro aussi.
Vous dites attention, on met le petit doigt et puis on ne sait pas
voilà,
jusqu'où ça peut aller.
Et la Chine ne se gêne pas pour en parler parce que ça représente en 2022 7 milliards de dollars le marché de l'intelligence artificielle au niveau de la reconnaissance faciale. Donc, il y a un marché absolu. Il y a aussi une envie de sécurité, une demande de la population mondiale par rapport à la lutte contre le terrorisme, de reconnaître des visages, de savoir exactement qui nous veut du mal. Et les gouvernements utilisent cet argument-là pour pouvoir dire, regardez, on vous protège. Mais en même temps, on n'a plus de vie privée. Donc on nous protège jusqu'à quel moment? Donc tant qu'on est dans une démocratie, ça va. Mais quand c'est en Chine ou ailleurs, ou en Russie ou ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué.
Marie-Catherine Beuth, sur précisément cette technologie Alicem en France, il faut s'attendre à un débat public, à des levées de boucliers juridique, à des associations qui entrent dans le débat?
Ça serait bien, oui, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une levée de bouclier. Je pense qu'il y a des associations type la Quadrature du Net qui sont vraiment aux avant-postes de ce combat-là pour la liberté individuelle et l'anonymat sur les supports numériques. Je suis d'accord avec Yasmina sur le côté genre la Chine c'est poussée à l'extrême, on se croirait dans un épisode de Black Mirror et la France on est dans une démocratie.
C'est une série Netflix, donc on fait beaucoup de Netflix ce soir dans l'émission.
Mais elle est super cette série.
Donc on peut se dire en France on est préservé de ça, mais on est aussi dans un contexte de défiance et moi je m'imagine parfois imaginer les manifestations des Gilets jaunes dans une société où toutes les caméras sur les Champs-Élysées étaient associées à un logiciel de reconnaissance faciale. Enfin, c'est un désastre.
En tout cas, dans les émeutes qu'on a entendues tout à l'heure, les 100 personnes, là, je suis en train d'y penser pendant que je vous écoute, elles auraient des soucis à se faire. Il y aurait peut-être moins d'envie comme ça de s'attaquer aux policiers si on pouvait reconnaître les 100 personnes qui se sont attaquées aux 3 pauvres malheureux policiers.
Ils étaient tous masqués.
En plus, oui, c'est vrai. Je n'aime pas trop ce mot de protection. C'est un mot de la mafia. La mafia protégeait les commerçants. C'est un mot de souteneur, le souteneur qui protège sa gagneuse. Vous voyez, ce mot de protection a quelque chose en soi qui est très équivoque.
Il est utilisé dans d'autres usages aussi.
Mon protecteur, oui, c'est ça.
Le protecteur de quelqu'un, c'est celui qui le protège contre sa propre violence. Je ne suis pas sûre que ce soit une notion qu'on ait trop intérêt à valoriser. Les cartes d'identité, par exemple, n'étaient pas obligatoires jusque dans les années Pasqua. Avant, c'était pas obligatoire, on n'était pas obligé pour justifier de son identité. Il suffisait d'aller au commissariat avec avec deux témoins qui disaient, bien, cette personne s'appelle bien Trucmuche, machin. Et depuis, on est entré dans une espèce de paranoïa où il faut être sans arrêt dans l'obligation de justifier de son identité et par là même de son existence, car sans identité, on n'existe plus.
Jean-Michel Ribes.
Oui, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de mettre des directeurs de casting derrière les caméras, parce qu'on pourrait peut-être trouver des talents inconnus d'acteurs ou d'actrices et des beautés insoupçonnées. Ça serait peut-être intéressant pour faire naître de nouvelles personnes au cinéma.
Je reconnais l'homme de théâtre. Hein. Pour la sécurité, la vidéosurveillance et ce système Alicem, c'est l'occasion pour moi de vous dire que Cédric O, secrétaire d'État au numérique, est l'invité demain du 8h30 de France Info, qu'il apportera donc un certain nombre de réponses aux questions que nous nous sommes posées ce soir, 20h57 sur France Info. Merci à nos informés, Marie-Catherine Beut, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion, qui a rejoint notre club des informés ce soir, et je vous en remercie, Yasmina Jaffar, fondatrice de laruchemedia.com, journaliste et experte en communication. Isabelle Alonso, romancière, chroniqueuse à la télévision. Je t'aime, etc. tous les après-midi sur France 2. En presse écrite, ciné mensuel et ciné madame. Et Jean-Michel Ribes, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre livre qui sort mercredi, un homme de théâtre, on a dit plus comédien, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris,
oui.
Issu de ce cours aux éditions Actes Sud.
Oui, c'est un texte qu'a écrit Fabienne Pascot, qui est la patronne de Télérama et qui a créé un texte. C'est depuis que je suis sur une petite peau de panthère quand j'ai un mois jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, c'est passionnant, c'est tous les spectacles que j'ai fait, toutes les bêtises que j'ai fait, tous les films et machins que j'ai fait, et ça aboutit à Palace, que je vous vraiment conseille d'aller voir au Théâtre de Paris, parce que c'est un des moments les plus joyeux de ma vie, une irrévérence permanente, mais dans la joie et la drôlerie. C'est un peu les Monty Python au Lido.
Au Théâtre de Paris en ce moment, et en tournée après dans toute la France. Merci à vous, bonne soirée sur France Info.